puede desconcernir. Que si esa vez con el exil y lo del Edouard sur la terre. Seul Jacob est celui de la descendance d'Abraham qui accepte l'éventualité de l'exil. Avant d'aller plus loin dans l'analyse du Maharal, je vous rappelle la Mishnah qu'on lit dans la Gada de Pessah. On rappelle, vos ancêtres sont revenus de l'autre côté du fleuve. Et aidez-moi à retrouver la Mishnah. Mais en l'âme, Terah, Avi Avraham Avi Nachor. Continue. Ken, et après Vaikahet Abichem. Donnez-moi une agadat Pessah. Dans un livre de Moradim. Vous m'excusez, ma mémoire n'est plus ce qu'elle est d'habitude, mais c'est pas grave, on va trouver les livres. Mais Ever and Ayam. Non. Non. Varbe Zaro. Varbe Zaro, c'est Ishmael. Vaiten Noé Titzrak. Vaiten Noé Titzrak. Vaiten Noé Titzrak. Vaiten Noé Titzrak. La reste de tout. Mais Yaakov ou Bana, Vierdon Israël. Ça y en a retrouvé la Mishnah. Voilà, la Mishnah dit ceci. J'ai ramené votre père de l'autre côté du fleuve, c'est le Frat. Je l'ai fait promener dans tout le pays. Il s'agit du pays des Hébreux. J'ai multiplié sa descendance. Ça, c'est Ishmaël. Je vous cite le Maharal. Et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Esaü et Jacob. À Esaü, j'ai donné la montagne de Séir. Et Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Ça veut dire de toute la descendance d'Abraham, il n'y a que Jacob qui est dans le cadre de l'éventualité de l'exil. J'explique maintenant pourquoi c'est important. Parce que Ishmaël a voyagé partout, mais partout en conquérant. Ishmaël n'a jamais connu l'exil à la manière dont Israël l'a connu. Sauf peut-être une petite exception, c'est les Palestiniens qui étaient en exil en Israël. Un exil doré, comme on dit. Et puis, mais je referme la parenthèse, ce sera un tout autre sujet. De la même manière, Esaü, qui a fondé la chrétienté, a voyagé partout, mais partout en conquérant. Et jamais Esaü n'a été en exil. Sauf peut-être, et ici en Eretz Israël, je veux dire, les premiers Shabbatot de Mahalia, j'étais impressionné par ça. J'allais de chez moi à la synagogue, en général j'allais aux côtés des premières années d'ailleurs, et je voyais de temps en temps des bonnes sœurs et des curés se faufiler entre les ruelles pour entrer d'une église à l'autre. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois depuis 2000 ans que les chrétiens sont en exil chez les juifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me rappelle de ma jeunesse, pour aller de chez moi à la synagogue, je traversais une ville goy, enveloppée dans un petit Shabbat portatif, et préservée par le Shabbat portatif, et je rentrais de... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'était le cas des... Vous voyez la différence. Alors, effectivement, il faut bien comprendre ça. Ishmaël n'a jamais connu l'exil. Esaü n'a jamais connu l'exil. Et pourtant, ils ont voyagé partout, mais partout en conquérant. Donc, ils n'entrent pas dans le cas de cette définition à qui appartient la terre des Juifs. Allez, je referme la parenthèse, je crois qu'on a un peu pénétré dans cette question, pourquoi il fallait confirmer à la descendance d'Abraham par Isaac et par Jacob, la possession de la terre des Hébreux. Parce qu'à partir d'Abraham, de la famille d'Abraham, il y a plusieurs lignées d'Hébreux devenus en Aramaïque qui se sont instaurées en rivalité d'Israël. Vous avez compris le problème ? Non ? Regardez, prenez le frère d'Abraham, Haran. Lui est mort au Kazim, mais il a un fils, Lot, qui est neveu d'Abraham. C'est la même identité. Or de Lot, qui procède de cette famille d'Abraham, les Hébreux araméens de l'exil, procède finalement Ammon et Moab. Donc les Ammonites et les Moabites réclament la terre des Hébreux. Bon. Là où on est le plus familier, c'est la réclamation d'Ishmaël, la réclamation de Esaü, mais il y a sept dossiers des sept lignées de cette famille d'Abraham revenue de Kazdim qui ne sont pas Jacob Israël et qui s'instaurent en rivalité d'identité contre Israël au nom de la famille d'Abraham. Oui, il faut découvrir ce thème-là. Vous êtes familier, j'ai lu, vous êtes familier à l'idée des musulmans ou des chrétiens comme des étrangers à Israël. Mais il faut voir la préhistoire où ça s'accroche. Ça s'accroche à Ishmaël et ça s'accroche à Esav. Ça s'accroche à travers Amon et Moab, ça s'accroche à Lot. Et puis il y a la descendance de Nahor, l'autre frère d'Abraham, qui va instaurer l'identité araméenne, refusant de redevenir hébraïque. Et ça c'est Bethuel, et ça c'est Laban, les pires ennemis d'Israël, l'oncle. Mais Laban Bikesh, la Hakor et Hakol. Vous voyez pourquoi c'est important de retrouver la mémoire de cette histoire pour comprendre le présent. Toutes ces lignées-là, eh bien, ont des dossiers contre Israël au nom de la famille d'Abraham. Voilà, je ne savais pas qu'il me fallait tellement de temps pour éclairer cette notion-là. C'est pourquoi il est nécessaire de confirmer, c'est Dieu qui parle à Abraham, c'est à Isaac, après toi. Et après Isaac, c'est Jacob, et personne d'autre. Quel était le point de départ de la question? C'est la terre des Hébreux. Pourquoi il faut confirmer aux Hébreux? Parce que seul Jacob devenu Israël redevient vraiment hébreu. Tous les autres ont fondé d'autres peuples. Ça fait rien, si on n'a appris que ça ce soir, c'est important. Bien, vous avez compris? Essayez, je sais très bien par expérience qu'un juif ne peut pas penser à la manière d'un musulman ou à la manière d'un chrétien. Mais essayez de vous mettre un peu dans la problématique. Le musulman est persuadé que cette terre lui appartient. D'où ça vient? Le chrétien est persuadé que cette terre lui appartient. Actuellement, c'est en profil bas, parce qu'il y a eu la Shoah, et c'est indécent dans le monde chrétien d'avoir les mêmes réclamations qu'avant. On s'arrangera avec Jérusalem à traiter des dossiers soi-disant religieux et politiques, mais au fond, c'est la même problématique. Mais un chrétien est persuadé que cette terre est la sienne, puisque c'est sa terre sainte. Nous, c'est la terre enceinte, comme je le dis souvent, celle qui donne les récoltes. Regardez la différence de mentalité, quelle? C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle est saine. Et ben, d'ailleurs, et pourquoi là pourquoi là la chrétienté considère que Jérusalem, c'est sa ville sainte? Parce que c'était une ville juive. C'est parce qu'elle est juive qu'elle est sainte pour eux. Remettez l'histoire en ordre. Et pourquoi les musulmans considèrent que c'est leur ville sainte? C'est parce qu'elle est juive. C'est parce qu'elle était juive que Mahomet a rêvé que sa jument s'envolait de l'esplanade du temple. Il n'y a que le Misra d'Arhus qui est persuadé que c'est vrai. En tout cas, voilà à peu près le problème. Alors j'espère avoir élucidé cela et on embraye. Je sais bien qu'il y a deux questions comme ça en l'air, mais laissez-les à la fin. À moins qu'entre-temps, ça se soit élucidé. Et j'en profite peut-être pour mettre en évidence ceci, s'il y a aussi une telle perplexité parfois inconsciente chez les Juifs eux-mêmes, qui se formulerait ainsi. Et peut-être que c'est à eux aussi. Voilà d'où ça vient. Bien sûr, ça vient de l'inconscient profond. Mais vous avez l'expérience, je l'ai eue. Il y a énormément de Juifs, et même d'Israéliens, qui sont travaillés par ce doute, par cette perplexité. Et peut-être c'est à eux aussi. Vous avez compris ce que je veux dire, okay? Et alors on comprend pourquoi il y a une telle insistance dans le texte. Isaac et pas Ishmaël. Jacob et pas Esaü. Abraham et pas Lot. Pas l'autre. Vous voyez quel est le problème? C'est clair jusque-là? On passe au verset. Voilà ce que dit Abraham. Verset 4. Hein? Cette expression, Ger Vetoshar, je vous ai expliqué assez profondément, elle est contradictoire. Ger, ça veut dire étranger. Et Tosha, ça veut dire résident, séjournant. Ne prenez pas le sens des mots dans les mots modernes, hein, parce que ça pose des problèmes qu'on pourrait étudier, mais ça prendrait trop de temps. Je vous donne un exemple très, très clair. Et lorsque quelqu'un se convertit au judaïsme, on l'appelle guerre. Mais c'est avant qu'il ait été converti qu'il était guerre. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté. C'est clair pour tout le monde, hein? Comment dit-on devenir juif? Ça se dit devenir goy, les Hidgalir. Et je pose les choses à la limite, mais la question est effectivement étonnante. Je voudrais vous citer l'explication que j'ai reçue d'un de mes maîtres, qui était un des fondateurs du Gush Etzion. Il s'appelait le Rav Abraham Epstein, Zichron Ibracha. Vous l'avez connu, Epstein. Et il avait quitté le pays parce qu'il s'était fâché avec Ben-Gurion. Il n'en a obtenu que de son fils que son corps soit ramené dans le pays. Vous avez assisté à toute cette histoire, je suppose. Et alors, c'était un grand talmudiste. Ça a été d'ailleurs le maître de Steinsaltz. Je ne sais pas si vous savez qu'a dit Steinsaltz, un Baal Tshuva de la Shoah Tzahir, qui a été ramené au judaïsme par le Rav Abraham Epstein. En tout cas, il a expliqué ça comme ça. Il a dit, c'est une explication un peu drache, mais enfin quand même, qui mord sur le pshat. Il a cité un verset qui guérit, où Dieu dit à Israël, qui guérit Vetoshavim Atem Imadi, car vous êtes des étrangers séjournant avec moi, auprès de moi. Et alors il explique comme ça. Si vous, Israël, vous vous considérez comme Toshavim dans le monde, moi, Dieu, je suis guerre, je suis étranger. Si vous vous considérez comme étranger dans le monde, alors moi, je suis Toshav, je suis chez moi dans le monde. C'est très chassidique, ça. Okay? Et alors, il dit, voilà, Israël, c'est l'étranger du monde. Et par conséquent, lorsque quelqu'un devient Israël, il accepte de la condition d'être l'étranger du monde. Est-ce que c'est clair, ça? Je crois que ça se comprend tout seul. Okay? Alors, je ne sais pas si Albert Camus avait entendu Herbert Epstein et que c'est pour ça qu'il a écrit L'étranger. En fait, vous connaissez L'étranger? Non. Eh bien, il y a dans l'identité juive une expérience profonde de cela. Nous savons que nous sommes de la terre, comme les autres hommes. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous dit que nous sommes d'ailleurs. Une achamaïque. C'est clair? Je suis sûr que ce n'est pas clair. Enfin, j'espère que c'est clair. Beaucoup de chassidés au Moutar en l'âme ont cette intuition existentielle. On est de la terre. Mais au fond, la limite, peut-être que la terre appartient vraiment aux animaux et que nous sommes étrangers. Est-ce que vous comprenez un peu ce sentiment dont les poètes, surtout romantiques, ont beaucoup parlé, okay, mais qu'on a une relation avec l'ailleurs et pourtant on est d'ici. Est-ce que c'est clair? Religieusement, mystiquement, on pourrait dire notre corps est sûrement terrestre. Il ressemble tellement à celui des animaux. D'ailleurs, c'est les animaux qui ressemblent. Mais l'âme, est-ce qu'elle est vraiment de ce monde-ci? Quel rapport elle a avec le monde des instincts? Quel rapport elle a avec le monde terrestre? Des riens? Peut-être nous sommes des célestes. Torah mina shamayim. Il faut prendre ça au sérieux. Bon, je ne vous ai pas fait peur. Mais... Eh bien, alors il y a cette intuition-là, que nous sommes à la fois guérim vetoshavim. Nous sommes à la fois comme des guérim dans le monde, et mais des toshavim quand même. Alors on n'a pas de place, vraiment, parce que les habitants du monde, ont des droits sur leur terre. Et les droits sur leur terre, ça, il faut étudier les sociétés humaines depuis les origines. Ça se confirme par l'endroit de la tombe, le caveau. Et alors, ils ont leur caveau. Mais voilà que ces étrangers, ces extraterrestres-là, eh bien, ils n'ont pas de caveau en terre. Si j'ose dire, ils n'ont pas de place en terre. Il n'y a pas un peu de ça dans l'expérience existentielle juive. Partout où nous avons voyagé, eh bien, nous avons eu ce sentiment d'être à la fois guerre et tout ça. J'ai revu à la télévision. Vous sentez bien ces choses-là? Attendez, je voudrais finir dans la phrase. J'ai revu à la télévision le procès Dreyfus. Vous avez dû voir ça, en tout cas, quelques séquences. Enfin, j'en ai vu un petit peu. Alors, ça m'a... Dans les conversations que j'ai eues, d'ailleurs, dans la famille, on s'est dit, comment il peut y avoir encore des juifs en France après ces scènes-là qui se considèrent comme vraiment chez eux en France? Comment c'est possible? Mais je voudrais exprimer cela parce que je l'ai vécu, moi, dans ma jeunesse, avant la guerre mondiale, où j'ai vibré à la Marseillaise, sous l'uniforme français. Eh bien, j'étais... j'ai oublié tout ça, mais enfin, tout le monde a ça dans sa mémoire. Hein. On savait qu'on était juifs, donc étrangers. Et puis, on s'était persuadés qu'on était chez soi, puisque français. Alors la grande blague, c'était chez les Algériens. Puisqu'on est Algérien, on est Français. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. cette ambiguïté-là, je crois que ça éclaire un peu cette problématique de Gervais Tocha. Je voudrais vous citer, avant d'aller plus loin dans le chat, et là c'est Ibn Ezra qui explique en clair, un poème de Judas Lévi que nous chantons dans les slichot de Rosh Hashanah, dans les rites Sfaradi. Keger Toshav Ani Algav Adama Veulam Ki Bebitnahi Nahalati. Voilà ce que dit le poète. Keger Toshav, comme un étranger séjournant. Ani Algav Adama, je suis sur la surface de la terre, Veulam, et cependant, je sais que c'est en son sein qu'est mon héritage, et ça c'est la tombe. Bon, je crois que ça vaut la peine, jusqu'à ce que je vois un sourire sur votre visage, d'exprimer ce sentiment existentiel. Ça ne veut pas dire qu'énormément de goyim ne l'ont pas. C'est les chassidim ta'olam. Ils ont à l'échelle individuelle ce sentiment profond. J'ai rencontré chez beaucoup de philosophes, chez beaucoup de poètes surtout, goy. Mais c'est le sentiment juif, par excellence, d'expérience existentielle. De vivre en sachant qu'on est à la fois étranger et chez soi. Ça, c'était notre sentiment dans l'exil. J'espère que là, il n'y a pas d'objection. Hein. Mais alors, voilà, Mida Keneged Mida, la punition de ça, c'est qu'on arrive chez nous et qu'on nous dit la même chose. Quand on arrive chez nous, on nous dit vous êtes étranger. Pourquoi? Parce qu'on s'est senti chez soi à l'étranger. C'est Mida Keneged Mida. J'allais dire Amida Keneged Amida. Oui, où ça va? Et alors, c'est intentionnellement que j'ai d'emblée exprimé le sens métaphysique de cela. Je crois qu'il faut bien y réfléchir. C'est toute l'humanité qui est comme ça, mais elle a oublié. Elle est créée autrement que tous les êtres de la terre. Reprenez le texte de la création de la Genèse. Et c'est Israël qui est vraiment dans ce cas à un niveau historique. Alors les autres nations rencontrent un peuple qui est comme ça réellement, sociopolitiquement. Alors ils diagnostiquent que le salut passe par là. Bon, pour schématiser le mot. Guerre de Toshav, Anochi Imachet. Avant de vous donner la parole, parce que je vois que vous avez des questions, et je vous dis comment Ibn Ezra explique ça. C'est ceci. Il y avait dans cette société des Hittites qui occupait Kiryat Arba, Kiryat Arba et Yehevon, il y avait le statut suivant. Chaque famille possédait son caveau familial. Mais il y avait les étrangers. Et pour les étrangers, il y avait un champ, genre fosse commune, qui entourait le caveau familial de Ephron Ben Sohar, qui était le possesseur de ce champ. Et je reviendrai après sur son identité. C'est pas n'importe qui cet homme qui est en dialogue avec Abraham ici. Et alors voilà ce que dit Abraham à Ephron ben Zohar. Comme je suis guerre vétochard, je n'ai pas de statut. En tant que guerre, je n'ai pas de caveau. Mais en tant que tochard, j'y ai droit. Alors, résolvez mon problème. Trouvez la solution. La solution ne peut être que dans ce champ où on enterre les guérines, et qui appartient cependant au Toshav qui a son caveau dans le champ. Vous voyez, le statut d'Abraham ne peut être résolu que par la possession de ce champ-là, et pas d'un autre. Le Midrash, c'est surtout dans le Zohar, mais déjà dans le Midrash Rabbah, nous donne une éducation sur Ephron ben Zohar. Cet homme-là a un nom très particulier. Ephron, c'est le poussiéreux, Avar. Vous rappelez, tu es de la poussière, tu retourneras à la poussière. Il a le nom du possesseur du cimetière. Ephron, c'est, je ne sais pas comment on dit en français, le maître des cimetières. En hébreu, ça se dit Ephron. Est-ce que c'est clair? Oui, chez qui va Abraham? Zohar, c'est un mot qui se rattache à Zohar, et ça veut dire poussière, fils de lumière. Et la Shfut, à l'origine, c'était la lumière, on est tombé dans la poussière. Alors que Abraham, c'est le sens inverse. Il passe de la poussière pour aller à la lumière. Alors les deux ascenseurs se rencontrent à un certain niveau. Abraham, qui est la ligne de la rédemption du monde, arrive au stade où il doit prendre en charge la ligne de la chute du monde. C'est la caverne de Marpella. J'espère que c'est suffisamment clair, okay? Bien que dit de façon un peu midrashique. C'est ce que le midrash veut nous dire. C'est là que sont enterrés Abraham et Hava. Et bien c'est là qu'Abraham vient prendre le relais. Vous voyez, dans la ligne de Ephron ben Zohar, il y a la chute. Dans la ligne d'Abraham, il y a la rédemption. Et alors, au niveau de la rencontre, Abraham va prendre le relais. Ça y est, c'est clair? Top. Et ça s'appuie sur un enseignement du Nefesh HaRaim, sur l'expression, lorsque Abraham plaide pour Sodome et Gomorre, lorsqu'il dit à Anochi, Afar va efer, je suis poussière et cendre. Le passage par la lumière fait que la poussière devient de la cendre. Le Rav Chaim de Volozhin base ça sur le midrash très connu. C'est qu'à l'origine, l'homme était fait de lumière. Vous vous rappelez de cela ? D'après la force, il est recouvert de peau. Alors, c'est comparer les deux mots, or et or. Le mot de or, la lumière, va devenir or. Le aleph passe au haïn. Et alors que le sens de la chute, c'est quand le aleph tombe dans le haïn. Le sens de la rédemption, c'est quand le haïn remonte dans le aleph. Et il y a énormément de midrashim qui s'accrochent là. Et d'enseignements que vous connaissez d'ailleurs. Haïn, c'est la multiplicité, c'est 70. Aleph, c'est l'unité, c'est 1. C'est la relation entre Israël et les nations. Mais c'est surtout ce relais que je voulais mettre en évidence. Donc Abraham dit à Ephron, au Chiddush, c'est ce kavod-là qu'il me faut. Est-ce que c'est clair jusque-là? Top. Et voilà ce que je voulais dire essentiellement dans ce problème d'identité particulière où Abraham, Gerve Toshav, vient prendre le relais de Ephron ben Zohar. Notre problème étant essentiellement qu'Abraham tient à ce que ce soit Shtar Kinyan et pas Shtar Matana. On a appris deux choses importantes. La première, c'est pourquoi il faut confirmer à la descendance d'Abraham la terre des Hébreux. Si ce n'est pas suffisamment clair, je reviendrai d'ailleurs. La deuxième, c'est que, effectivement, il faut prendre le relais, et ce relais doit être pris par un Shtar Kinyan, par un contrat d'acquisition. Si il me reste du temps, on verra la législation du Talmud. Ce serait dommage qu'on ne prenne pas de temps. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on voit vos questions maintenant ou à la fin? Et qu'on voit Talmud d'abord? Le Talmud d'abord. Alors prenez le Talmud. Voilà, vous suivez avec moi. En hébreu et en français, je vous ai souligné. Regarde, Hana, je vais me donner ma loupe. Tu as la clé? Je vous ai souligné les expressions sur lesquelles il va falloir s'apesantir. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'étudier le Talmud, accrochez-vous, laissez-vous traverser, imprégner. Il s'agit d'une discussion qui apparemment est formelle, les procédures du mariage, mais qui en réalité vont jusqu'au fond très profond de la conception même du mariage d'après la Torah. Alors, très rapidement, il y a dans la culture générale deux doctrines du mariage. Une doctrine qui aboutit, je schématise beaucoup, à la limite, d'avoir dans le mariage un contrat social. Je répète, une première doctrine qui explique le fait de faire couple, qui est un problème important de la société humaine, remis en question dans la société moderne, mais je n'aborderai pas cet aspect de la question, donc le fait de mettre en commun les droits et les devoirs au niveau d'un contrat social. À l'opposé de cela, il y a le mariage, la doctrine du mariage par amour. La conception de la Torah connaît les deux, mais les considère comme mineurs. Ce n'est pas la vraie motivation du mariage. Elle est tout à fait autre. Nous l'apprenons de la Torah elle-même. C'est le fait de briser la solitude. C'est un tout autre niveau. Alors, on se trouve en présence de trois motivations du mariage. Les trois vont être habilitées par la Torah Sheba'al Peh, par le Talmud. Mais celle de la Torah, c'est premièrement briser la solitude. Quel est le verset? C'est le fait que, d'ailleurs, très souvent je reçois des jeunes gens qui me demandent conseil pour leur mariage éventuel. J'invite de leur répondre, si vous qui vous connaissez, vous n'êtes pas sûr, comment moi qui ne vous connais pas, je vais être sûr. Alors, je vais m'acheter le c'est un peu la pensée magique. Et alors, Je réexplique cela. Que si on considère qu'avec l'autre, on n'est plus seul, alors c'est déjà l'essentiel. Le contrat, l'amour, tout ça, ça s'arrange après. Et d'ailleurs, vous savez très bien que l'amour avant le mariage, l'amour après le mariage, c'est pas le même. L'amour des fiançailles et l'amour du mariage, c'est pas le même. Il y a un troisième âge, c'est les fiançailles après le mariage. Ça, c'est le meilleur. Mais en tout cas, pour revenir au problème, c'est... pour la Torah, c'est clair qu'elle ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on appelle l'amour dans la littérature grecque, ou ce qu'on appelle le contrat social dans la littérature romaine. Elle s'occupe d'abord de l'essentiel. Le verset dit « Lo tov heyot ha-adam levado et eselo ezer genero ». Bon, je vais passer 2 heures à ouvrir le verset, mais juste en ce qui concerne notre problème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà la raison du mariage. Il s'agit de l'expérience de la solitude. Celui avec qui on sait qu'on n'est plus seul, eh bien c'est lui, l'homme sœur. Je ne sais pas comment dire ça. Ou elle. Vous avez compris un peu le problème. C'est pas plus compliqué. D'ailleurs, je vous relis le verset, parce qu'il est mal traduit. On traduit officiellement comme si Dieu avait dit « L'otov sheihi Adam levado ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a écrit « Cela n'est pas bon, heyot Adam levado, l'homme étant seul ». Et de quoi s'agit-il? Tout ce qu'on a dit dans le premier chapitre, et Dieu vit que c'était bon, et Dieu vit que c'était bon, tout ça c'est pas bon tant que l'homme est seul. Vous voyez où ça va? Il y a là, de la part de la Torah, la désignation d'une expérience fondamentale. Tous les êtres normaux ont perçu qu'il y avait un problème avec ce texte. Dieu a vu que le monde était bon, mais pour nous le monde c'est bon et mauvais. Et il y a un contraste. Hein? Et alors il faut relier les deux notions. La créature qui est dans l'enfer de la solitude, pour lui le monde c'est l'enfer. Vous savez, c'est clair? C'est pas plus compliqué. Alors voilà donc le jugement qui est porté par Dieu. Tout cela n'est pas bon. L'homme étant seul, tant que l'homme est seul, et d'où la stratégie de la rencontre du couple, et c'est ça le mariage. Donc l'objectif du mariage, c'est de briser la solitude. Et ça nous permet de comprendre quelle est la motivation du mariage d'après la Torah. Vous savez que c'est clair? Alors, ceci dit, la Torah Shebarat et le Talmud connaît les deux autres motivations et va les habiliter, mais à certaines conditions. Ça veut dire, la Torah Shebarat, c'est très bien que la plupart des rencontres se font par amour, c'est-à-dire au fond, par motivation de désir. C'est la procédure de Kesef. Qu'est-ce que c'est Kesef? L'argent, eh bien c'est ce par quoi on obtient, ce pourquoi on a un kisouf, un désir. Alors il est bien évident que le soubassement, le keli de l'amour, ça commence déjà au niveau physique par le désir. Ensuite, c'est sublimé à travers le comportement social. Et puis, les rencontres privilégiées commencent par l'amour et le désir viennent après. Mais en général, la plupart des rencontres se font par le désir. Et les rabbins se trouvent devant un problème. Est-ce qu'on va habiliter ce genre de mariage? Est-ce qu'on va considérer ça comme mariage ou comme accouplement par le désir? Est-ce que c'est clair tout ça? La Torah Shebarat va décider d'habiliter. Mais à quelles conditions? Parce qu'elle n'habilite pas, les marieurs n'ont plus de travail. C'est-à-dire, l'immense majorité des mariages ne seraient pas des mariages. Alors, pour la Torah, encore une fois, le véritable mariage, c'est l'union d'un couple. J'ai expliqué d'une certaine manière, mais je crois que c'est l'essentiel, parce que le problème à résoudre, c'est le problème de la solitude. Et puis, d'autre part, il y a aussi... le contrat social, on va fonder une famille, donc il y a des conditions socio-économiques. Alors les 3 procédures qui vont être habilitées par la Torah Shebarat, c'est la procédure par l'argent, ça c'est la bague. Le mari offre une bague à la fiancée, enfin le futur mari. Le fiancé offre une bague à la fiancée, si elle l'accepte, il y a mariage. Ça c'est Kesef. D'autre part, il y a l'aktuva, c'est le shtar, le contrat, et dans l'aktuva, qu'est-ce qu'il y a écrit? Les droits et devoirs réciproques des époux dans l'entité socio-économique du couple. Ça c'est Kesef, ça c'est Shtar. Mais en vérité, ce que la Torah avait demandé, c'est Bia, le fait de l'unité de lui et elle, pour refaire un Adam. Ça s'appelle bien. Le fait que l'un et l'autre s'unifient. Je ne traduis pas plus bas, mais c'est à ce niveau, ça suffit. Alors, on lit la Mishnah. Aïcha Mikni, la femme est acquise, sous-entendu en mariage, Bishlusha Dvarim, Drachim, pardon, par trois procédures. Vous avez le texte ? Suivez. Suivez ce texte. Quelles sont ces trois procédures ? Deuxième ligne, Nikni, elle est acquise, Bekesef, la procédure de l'argent qui formalise le mariage par désir, par amour, c'est la bague. Bishtar, pas le contrat, c'est la ktouva, ou Bebia, c'est l'union conjugale. Dans le rite ashkenaz, vous avez dû remarquer qu'immédiatement après les Shevar Brachot, il y a le Ichoud. Le Ichoud, c'est que le fiancé et la fiancée s'isolent dans une chambre, et les deux témoins restent à la porte, et le Ichoud, c'est sa Bia. Chez les Sfaradim, on considère que la Choupa fait le Ichoud. Mais, quoi qu'il en soit, je vais essayer d'expliquer ça très, très simplement. Primitivement, à l'origine, ça n'a jamais été appliqué comme ça, la Torah Shebaal Peh interdit. Voilà comment se faisait le mariage. Les deux témoins accompagnaient le fiancé et la fiancée à la chambre nuptiale. Bien, c'était ça le mariage d'après la Torah. Est-ce que c'est clair ? Le niveau de moralité étant tombé, les rabbins interdisent, et par conséquent, il y a la choupa. Et ce que représente le Ichoud, c'est effectivement bien. C'est clair ? Alors je reprends le problème à la Gemara. Voilà la question qu'on va poser à la Gemara. La Torah avait dit « Ki kah ish isha » lorsqu'un homme prendra femme. Un peu dans le sens français « prendre femme ». Mais le verbe employé par la Torah, c'est « kicha » prendre femme, la koah. Hein? Donc la Mishnah aurait dû dire « aisha nikrit nilkeret » en fait en hébreu américain. Pourquoi la Mishnah dit Aisha Niknit? Pourquoi la Mishnah a changé le verbe de la Torah? Suivez bien, accrochez-vous. Alors on lit dans la Gemara Aisha Niknit. On cite la Mishnah. La femme est acquise en mariage. Maishna, pour quelle raison il a changé Hacha ici, d'étané, et il enseigne Aisha Niknit. La femme est acquise. Ou Maishna, Hatam. Et pour quelle raison il a changé là-bas? C'est au début du deuxième chapitre où la Mishnah commence par dire Aish Mekadesh, l'homme consacre mariage. Ici, le sujet c'est la femme, et le verbe l'art c'est acquisition. Et dans l'autre Mishnah, le sujet c'est l'homme, et le verbe c'est consécration, Kiddushim. Retenez tout ça, et on s'accroche. Alors en fait, il n'y a pas que deux questions, il y en a trois. Pourquoi la Mishnah a changé de la Torah à ici, de qui kah à Isha Niknit, et si déjà il fallait changer, pourquoi on change encore dans le deuxième chapitre, et on change de Niknit à Mekadesh? Il y a tout un faisceau de questions. Mais derrière, il y a une question filigrane. Ici, le mariage appelé Kinyan, c'est la femme qui est sujet de la procédure. Alors que là-bas, le mariage appelé Kiddushin, c'est l'homme qui est sujet de la procédure. Vous entendez toutes ces questions? Bon, on les rassemble dans la mémoire et on avance. Alors, réponds. Vous êtes à la troisième ligne de la Gemara, okay? Au milieu, Mishum dekabaï le mitne kesef. Parce que la Torah Shebealpé a voulu enseigner, kabaï a voulu le mitne, enseigner dans la Mishnah, kesef. La procédure par l'argent. Parce que la Torah Shebealpé a voulu habiliter le mariage par amour, alors elle doit dire niknit. Et pas Nilkefet. Elle doit dire Kinyan et pas Kicha. Pourquoi? Et alors, parenthèse qui s'ouvre là. Vekesef Minalan. Et d'où savons-nous que l'argent, donc la bague, le désir, l'amour, est une procédure du mariage? D'où nous savons cela? Ça veut dire que la Torah n'a pas enseigné. Mais est-ce qu'il y a une allusion que c'est possible? Réponse. Gemar Kicha Kicha Misdeefro. On a établi un raisonnement non pas analogique de kicha du mariage à kicha de Zdeifron, du chant de Ephron. Alors on revient au chant de Ephron avant de reprendre la. Je vous ai lu déjà le verset. Prenez le verset 13. du chapitre 23 dans la Torah. Voilà ce que dit le verset. Vayaver et Ephron, l'osne armare. C'est Abraham qui parle à Ephron aux oreilles du peuple du pays, les morts en disant, ar seulement, imata wushemaheni, si tu acceptes de m'écouter, natati kesefasade kahmimeni. J'ai donné l'argent du champ, prends-le de moi. Et là, nous avons un exemple d'une procédure d'acquisition par l'argent. Est-ce que c'est clair? Parenthèse. En fait, Abraham n'a pas donné l'argent, mais on apprend du Midrash, Abraham, en sa vertu, s'il dit « j'ai donné », c'est comme s'il a déjà donné. C'est déjà acquis. Okay. Voilà. « Nathati kesefasade karmimeni. J'ai donné l'argent du champ, prends-le de moi. » Et alors, comment la Gemara va utiliser ce verset pour expliquer que l'acquisition par l'argent s'appelle kinyan et pas simplement prendre. Le verset concernant le mariage disait ki ikar ishisha. La Mishnah nous dit aisha niknit. Pourquoi elle a dit niknit la Mishnah? Pour habiliter la procédure de kesef. Prendre avec kesef, ça se dit acquiert. Vous allez voir, je vous donne la réponse après, tout va s'éclairer. Simplement pour vous indiquer que pour se préparer à étudier une page de Gemara, il faut se préparer. Alors on dit, Tibacha est écrit d'un côté, Kikar Shisha, pour Tibatam, Natati Kesefasade Karmimeni, Vekicha Ykre Kinyan, et prendre, sous-entendu, en donnant de l'argent, ça s'appelle acquérir, dirti, puisqu'il est écrit, Asade Asher Kana Abraham, le champ que Abraham a acquis. C'est la suite du texte. Ce champ, après cette procédure, va être appelé le champ qu'Abraham a acquis, pas qu'il a reçu en cadeau de Ephron. Et si on a dit, et si on objecte que peut-être c'est un cadeau, mais que d'autre part, il y a eu une procédure d'acquisition, pas par l'argent qu'il a donné, ça c'est un échange de cadeaux, mais une autre procédure légale d'acquisition, alors on va citer un autre verset, là vous prenez en bas, Iname, nous aussi, c'est un verset du prophète Jérémie, Sadot bakesef nu, les champs sont acquis par l'argent, ça veut dire l'argent a prérogative de permettre l'acquisition des champs. Alors ici il y a une difficulté que je vous signale très rapidement, certains l'ont déjà perçu, ça ne marche pas. Le raisonnement ne marche pas du tout. Parce que pour Abraham, il y a écrit, c'est Abraham qui donne l'argent, Natati Kesef, Asadé, Karmimeni, prends-le de moi. Ça veut dire, dans ce parallèle, il y a le fiancé et la fiancée, Abraham et Ephron. Abraham dit à Ephron, j'ai donné l'argent, toi Ephron, prends-le de moi. Tandis que dans Kikarishisha, c'est l'homme qui prend femme en donnant de l'argent. Mais le raisonnement ne marche pas du tout. Okay? Est-ce que c'est clair? Alors, si vous avez entendu la difficulté, on va apprendre ce que la Gemara dit par la suite et ça va se résoudre. On continue en bas. Venit mehatam aishkone. Et pourquoi ne pas enseigner dans l'autre Mishnah, au début du deuxième chapitre, l'homme acquiert? C'est atam ou acha? Atam. Puisque déjà j'ai appris qu'il faut dire Kinyan et pas Kicha, pourquoi au lieu de dire Aish Mekade, je ne dirais pas Aish Kone? Mais je crois que je dirais trop vite. Je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi il fallait que ce soit ce verbe de Kinyan. Parce que prendre une femme pour de l'argent, si ce n'est pas définitif, c'est autre chose que le mariage. Est-ce que c'est clair? Je parlais proprement. Étant donné qu'il s'agit de prendre une femme pour de l'argent, il faut dire que c'est kinyan. Parce que si ça reste kiha, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Alors, ceci dit, si on a compris effectivement qu'il faut dire kinyan, pourquoi ne pas continuer le même verbe et là-bas dire aish kone? Mais rappelez-vous notre question, c'est qu'ici aisha est sujet de la procédure. Ça y est? Bon, on va arriver très vite à la réponse. Quelle heure il est? Parce que vous me faites peur. On a déjà dépassé 8 heures. Oui, alors je vous donne la réponse. Parce que sinon, à moins que vous voulez qu'on continue. On reprend le verset 2. Donc Ephron n'a pas accepté l'argent le sang n'est pas acquis par Abraham. C'est-à-dire, tant que la Isha n'a pas accepté Laban, le mariage n'est pas contracté. Ça y est, c'est clair ? Alors voilà pourquoi c'est la Isha qui est le sujet de la procédure. Ce qui est dit par la suite de la Gemara, si elle accepte, c'est possible, si elle n'accepte pas, c'est pas possible. Alors, juste une phrase, pour mettre bien ça en évidence, faites bien attention à ça. Dans la procédure talmudique du mariage, c'est la femme qui décide. C'est-à-dire, le sujet de la procédure, c'est la femme, c'est pas le mari. C'est clair jusque-là. Alors, au niveau de la... C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de finir la Gemara, on la reprend dans un jour. Au niveau, si vous voulez, de la psychologie profonde du mariage, les fiancés croient que c'est eux qui choisissent leur fiancé. En réalité, c'est l'inverse. C'est toujours la femme qui a choisi son mari. Bon, sur ces bonnes paroles. J'allais dire, croyez-en mon expert. Sur ces bonnes paroles, je voudrais vous dire que je ne serai pas à Jérusalem pendant deux semaines. Quand même, j'aime me faire soigner. Et alors, les cours seront assurés. Mais on se reverra donc dans trois semaines. Si j'accepte de...
Tout à l'heure, vous avez parlé des identités de passage qui étaient des clipotes, l'identité araméenne et l'identité juive.
Hébraïque.
Hébraïque.
Yeah.
Mais aujourd'hui, on a un problème avec l'identité israélienne. Si telle qu'elle a été... comprise par le gouvernement et telle qu'elle se profile à l'horizon, est-ce qu'on ne doit pas prendre du recul par rapport à cette identité israélienne ?
J'ai compris la question. Ça fait, je ne sais pas, c'est 17 ou 18 fois que tu poses la même question.
Ah bon ?
Oui, je ne sais pas si tu te rends compte. En cristallisant vraiment, ça se remet au sujet d'ailleurs. En fait, il faudrait plus de temps. Il y a actuellement un clivage qui est en train de se dévoiler, mais il existe depuis la fondation du pays, entre deux peuples juifs redevenant hébreux. Ceux qui sont venus dans le pays pour plus être juifs et ceux qui sont venus dans le pays pour être vraiment juifs. Et c'est maintenant que ça se éclate, si vous voulez. Mais ce problème était là depuis la fondation d'Israël. Et je dirais qu'il y a quatre tendances en réalité. C'est parmi les fondateurs du pays, la majorité était ceux qui voulaient quitter la condition d'exil et de redevenir hébreu en Israël, israélien, pour ne plus avoir cette condition de vivre de l'exil, ils ont jeté le judaïsme avec. Je dois vous dire pourquoi c'est maintenant que ça se dévoile aussi gravement, parce que les fondateurs étaient très juifs, tout en étant déjudaïsés. C'est leurs enfants qui se sont déjudaïsés, et c'est les petits-enfants qui nous font des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, il y avait ceux qui sont venus ici pour être vraiment juifs. C'est, disons, grosso modo, les sionistes religieux. Troisièmement, il y avait les Haredim qui refusaient l'idée d'un État juif, mais qui cependant sont venus dans le pays pour pouvoir, à l'abri de l'État sioniste, vivre en hébreu sur la Terre Sainte. Ça, c'est les Haredim. Et puis quatrièmement, il y a des Juifs qui sont là uniquement parce qu'ils sont là. En réalité, ils sont cosmopolites. Ils pourraient être n'importe où ailleurs, c'est la même mentalité. Et je crois, pour répondre un peu à ton... par le biais de ta question... Il semble bien que ce soit des juifs de type cosmopolite qui ont le pouvoir actuellement. Puisque leur objectif, c'est de faire un Hong Kong du Moyen-Orient. Bien, alors on reprendra tout ça par la suite.